deuxième partie d'Entonnoir. Et Jacques, tu vas nous parler d'un des livres qui t'a beaucoup plu en ce début d'année. Et je vais lâchement te laisser prononcer le nom de l'auteur.
C'est un auteur suédois et qui se prénomme Mons. Là, jusque-là, c'est facile. Et de son nom de famille, Kallentoft. Sous réserve de prononciation.
Accent suédois du sud, là.
Ce roman est paru aux éditions Serpent à plumes, là, qui ont eu une petite renaissance depuis un trimestre. Là, c'est un des premiers romans qui me plaît de ce qui paraissent chez eux, donc je vais vous en parler. Il est traduit du suédois par un monsieur Max Stadler et mademoiselle ou madame Lucy Kloss.
Et peut-être qu'on pourrait annoncer le titre, des fois ça aide.
Le titre, c'est Hiver. Et donc, comme j'allais le préciser, en fait, rien qu'à la couverture, il y a une espèce de jaquette comme ça qui montre une photo d'hiver en Suède. Et à la lecture du titre, on se doute que le lecteur, tout comme les personnages, vont avoir assez froid pendant ce roman. Cela se passe à, alors encore une fois, prononciation non conforme probablement, Östergötland.
Götland.
Voilà, qui est dans les environs, ça se situe au sud-est de la Suède et au sud-ouest de Stockholm.
C'est-à-dire très au nord de Grasse.
Très au nord de Grasse, tout à fait. On est donc en hiver, et en plus, paraît-il d'après l'auteur, du moins, c'est un des hivers les plus froids qu'ils ont eu en Suède dans ces derniers temps. On retrouve un homme nu, pendu à un arbre, en pleine campagne, avec de nombreuses blessures sur le corps. Il est complètement gelé, bon mais ça évidemment, vu que la température maximum c'est moins 20, c'est pas forcément une véritable information pertinente en tous les cas.
Ah, qu'il est bien conservé.
Il est bien conservé, voilà. Et donc, c'est l'équipe de Malin Force qui est chargée de l'enquête sur le crime ou sur un suicide. Au départ, on ne sait pas vraiment. Un meurtre rituel, un suicide, donc, une vengeance. Je rappelle qu'on est en pays anciennement viking et que la pratique des vieilles coutumes est encore entretenue par certaines personnes. Il y a aussi, pendant la guerre, certains Suédois et Suédoises qui ne sont pas restés forcément très insensibles au charme des nazis. Et puis, il y a des vieilles rancœurs familiales qui ressortent quelques années plus tard. Des voisins, des oubliés de la vie. Bref, les pistes sont nombreuses et les mobiles aussi. Le superintendant, donc, puisque c'est comme ça qu'ils sont nommés dans la police suédoise, Malin Force, donc c'est une jeune femme, parce que le prénom ne pouvait pas forcément le préciser. Donc c'est une jeune femme, elle est séparée du père de sa fille, et du coup elle donne tout dans son boulot. Aux grandes dames d'ailleurs de la jeune adolescente qui apparaît tout au long du roman, qui aimerait bien parfois que sa mère lui consacre un petit peu d'attention. Elle aime aussi, ça fait un peu polar, elle aime aussi la tequila dont elle abuse parfois, mais elle dit toujours que c'est pour se réchauffer.
Oui, mais si, ben, si.
Elle est tout le temps de nous faire croire. Alors le rythme de ce roman est très lent, je dirais même très très lent.
Hivernal.
Hivernal, un peu comme une balade en raquette dans la neige. On marche, paf, et puis vraiment c'est des pas très lents. Ou alors comme si l'auteur tentait de s'attarder sur chaque personnage. Tous les flics, enfin une partie de son équipe, tous les témoins et tous les suspects. Vraiment, c'est très très descriptif, les dialogues sont longs, comme ça. Mais c'est très bien, mais c'est lent. Il y a une qualité, ou peut-être un défaut, là c'est au goût de chacun, mais à la fin du roman, qui fait pourtant 475 pages à peu près, l'auteur ne résout pas toute l'énigme. Il laisse une fin un peu ouverte, et je sais qu'il y a pas mal de gens qui n'aiment pas trop ça. Moi, ça ne m'a pas particulièrement dérangé. Et d'ailleurs, c'est d'autant plus glaçant, si j'ose dire, cette fin un peu non résolue, disons. C'est vraiment donc, un roman qu'on peut recommander, malgré donc, ce petit défaut qui n'en est pas forcément un. Et aussi, l'accumulation des fausses pistes qui, au bout d'un moment, finit par lasser un peu le lecteur si vraiment il s'accroche pas parce qu'il dit bon, une fausse piste d'un côté, une fausse piste au bout d'un moment, elle va bien arriver quand même, cette brave Maline, sur si elle était sur le bon coupable.
Donc on va reprendre donc l'éditeur, c'est le roman noir Serpent à plumes.
Voilà.
Avant, c'est vrai qu'il y avait une collection qui c'était le Serpent à plumes noir. Ouais. Serpent noir, et là c'est une collection qui redémarre, je pense, un petit peu
c'est
roman
le troisième
noir.
Tome qui vient de troisième roman qui vient de paraître.
Et un petit conseil, si vous procurez le roman, enlevez vite la jaquette parce que la couverture à l'intérieur est
bien
beaucoup
plus belle que la jaquette.
Plus belle. Bon, c'est vrai que l'autre est un peu attractive.
Ça attire. Voilà.
Voilà, mais je la trouve très sobre et très très jolie.
Voilà, je voulais juste préciser que comme dans beaucoup des romans polaires dont on parle souvent, il démontre une fois de plus que la social-démocratie malheureusement a échoué. Et je voulais préciser que ce roman s'appelle Hiver, et un peu comme chez notre ami italien Vivaldi, Antonio,
eh ben, on va voir les 4 saisons.
Il va y avoir 3 autres romans, donc, qui seront les 3 autres saisons. Donc je suppose qu'après l'hiver, ben, ce sera le printemps.
On a hâte d'arriver à l'été, honnêtement.
Voilà, hein, ah oui, sûrement,
même en Suède du Sud.
Donc, je répète, Mons Kalentoft, hiver au serpent à plumes.
Alors moi, je vais vous parler d'un livre qui vient de paraître chez les Français Métayer. C'est un livre de Claude Batani et ce livre s'appelle Country Blues. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, ça n'a rien à voir avec la musique, mais plus avec la country dans le sens campagne. Là, on est au fin fond de la Bretagne et on va faire la connaissance des quatre enfants de la famille Argol. Ils font tourner une ferme. Enfin, plutôt... ils survivent au milieu de nulle part, donc encore une fois, on est vraiment paumé, avec une mère qui s'enfonce doucement dans son Alzheimer. En face d'eux, ferme adjacente, la famille des Moulek, en particulier les deux frères, qui eux ne sont plus fermiers et qui leur ont en fait vendu la ferme avant, il y a quelques années, aux Argol. On va donc faire la connaissance successivement des enfants Argol. Donc je vous présente Danny, en gros tendance calamiteux. Lui, il joue le playboy de campagne, j'insiste, profond de la campagne. On a Jean-Bruno. Lui, sa passion, c'est de la boxe, mais il a dû faire sauter quelques neurones en faisant son sport favori parce que il est pas très très net. On a une fille quand même, Cécile. Alors, quand je dis une fille, c'est plutôt tendance à Calamity Jane. Elle est passionnée d'armes à feu, un peu lesbienne sur les bords, au milieu aussi, ceci dit. Et puis, enfin, il y a Lucas. Alors, lui, c'est, je crois, le plus jeune. Des fois, je ne peux pas... Lui, il est tendance complètement schizo, mais alors vraiment. Et il ne s'exprime que par sa marionnette, qui a le doux nom, pas du tout breton, d'Olive. Et puis, tout d'un coup, dans cette fratrie, avec les frères Moulek qui les épient là en face, on a Flora. Flora qui, elle aussi, surgit de nulle part. Et moi, tout de suite, ça m'a fait penser un petit peu aux visiteurs dans le film de Pasolini, Théorème, parce que sa seule présence, le seul fait qu'elle arrive là, vous l'allez voir pas par hasard, mais le fait qu'elle arrive, ça va bouleverser la vie de chacun des frères et la vie aussi des Moulek. Vie apparemment tranquille, mais c'est vraiment qu'apparemment, car les passés vont ressurgir, et ces passés, c'est sombre, c'est entaché de sang, et c'est entaché de drame. Je cite l'auteur, il paraît que chaque famille a un cadavre dans son placard. Et ben, pour la famille Argol et pour la famille Moulek, c'est pas qu'un de cadavres. Il y a des suicides, on va parler de meurtres d'enfants anciens, non élucidés, non vraiment élucidés. Et bien encore pas mal d'autres cadavres qui sont dans leur placard et qui vont nous faire plonger et les faire plonger dans une tragédie bien étonnante. Dès le début du roman, on a une ambiance complètement plombée. Tour à tour, les enfants Argol, les frères Moulek vont raconter leur vie, leurs souvenirs. Et le passé va ressurgir peu à peu au milieu du présent, un passé présent, les deux temps se mêlent, s'en mêlent, les récits s'enchevêtrent. Et on a une espèce de puzzle assez diabolique qui se forme. En fait, et l'auteur nous fait, nous, lecteurs, un peu le voyeur de leurs histoires. Et au fur et à mesure des récits, on essaye d'entrevoir la vérité. On doute. Et puis, cette vérité, au bout d'un moment, on se la prend pleine poire. C'est vraiment elle nous arrive vraiment en travers de la figure. Mais évidemment, au travers de ce récit, on sent bien que les destins étaient tracés, et pour faire un très mauvais jeu de mots, les sillons du malheur étaient déjà très très profonds dans ce livre campagnard. C'est un livre noir, excellemment bien mené, par un auteur que nous avions découvert et que nous avions interviewé il y a 2-3 ans, je crois. Son premier roman, publié chez le même éditeur, chez Métayer, s'appelait Last Exit to Brest. Ici, il nous livre un roman, comme un mot à la mode, un roman polyphonique. Et on ne se lasse pas d'entendre la même histoire par 2-3 voix différentes. Les frères Argol vivent la même scène et ils vont la raconter, mais évidemment totalement différente, selon que c'est Danny, le playboy, ou Lucas, le schizo, qui raconte la même scène. Et c'est pas du tout embêtant, enfin, on s'ennuie pas du tout. C'est des points de vue différents, un peu comme si on avait placé la caméra à différents points. Et c'est ces points de vue différents qui vont nous amener petit à petit vers le dénouement. C'est une histoire complètement glaçante et glacée. L'originalité, c'est donc... On a parlé tout à l'heure avec Ingrid Astier d'un roman qui se passe en plein milieu de Paris, au milieu de la Seine. Hein. Et là, c'est un roman, on va dire, campagnard, rural. C'est assez rare. Et surtout de cette qualité.
Surtout en France.
Surtout en France. Hein. Oui, parce qu'on a le fameux nature writing aux États-Unis, où on a, dans l'Amérique profonde, beaucoup de drames qui se nouent. Mais là, c'est vrai qu'en France, on n'a pas tant que ça. C'est vraiment un excellent roman. Ne le loupez pas, je vous rappelle le titre, Country Blues de Claude Battani. C'est publié chez Métaillé pour un prix minime de 8 euros. Un petit peu de musique ?
Un petit peu de musique. Alors, bizarrement, c'est pas du tout fait exprès, mais en fait, si l'auteur s'appelle Claude Battani, le groupe qu'on va écouter s'appelle Bethany et Rufus. J'aurais pu mettre du country blues, mais c'est plutôt de la musique un peu roots. D'ailleurs, leur groupe s'appelle Bethany et Rufus Roots Quartet, avec un percussionniste haïtien, un flûtiste Pearl, un violoncelliste virtuose et une chanteuse guitariste qui sont tous
c'est
les deux.
C'est quel pays virtuose ? Non, pardon.
Qui sont tous les deux américains. Et le morceau s'appelle Who's Gonna Be Your Man ?
Jacques, tu nous emmènes pour le dernier coup de cœur en Amérique.
En Amérique, et pour finir donc avec un polar, enfin un polar ou un roman d'espionnage. Mais pas n'importe lequel. D'abord, on ne se permet jamais de parler de n'importe quel roman ici. Parce qu'ici, dans ce roman, l'espion, c'est Archibald Leach.
Évidemment, alors,
ça ne vous dit trop rien comme ça. Mais vous le connaissez sûrement par son pseudo hollywoodien, car Archibald Leach, anglais de naissance, s'appelait à Hollywood Cary Grant. Et vous ne savez peut-être pas, mais... Cary Grant a été espion, un agent des services secrets britanniques pendant la guerre. Bien sûr, pas un James Bond, hein, beaucoup plus calme. Encore que le début de son roman aurait tendance à contredire ce que je viens de dire.
Peut-être on peut citer là...
Je vais donc dire le nom du roman, effectivement, et l'auteur. L'auteur, c'est Stuart Kaminski, qui est hélas décédé en décembre. Le roman s'appelle « L'impossible Monsieur Grant ».
En référence à l'impossible Monsieur Bébé en français.
Voilà, et en anglais, ça s'appelle To Catch a Spy, référence au film To Catch a Thief.
Avec le même Cary Grant.
Ouais. Avec le même Cary Grant. Donc, outre Cary Grant, Dans ce roman, il y a un des personnages récurrents de Stuart Kaminski qui s'appelle Toby Peters, qui est un détective privé à Los Angeles pendant, enfin, dans les années 40-50. Un tough guy, comme dirait, comment dis-tu, un tough guy ?
Tough guy.
Un tough guy, voilà, un gros dur, qui n'hésite pas à prendre des coups et à en donner.
C'est moins joli, gros dur.
Enfin, bon, c'est moins joli, voilà. C'est un détective un petit peu raté, mais il a autour de lui une espèce de, comment dire, un club des cinq. Il y a sa logeuse, Madame Plot, qui est...
Il faut mieux pas ploter sa logeuse,
non,
enfin,
non,
bon,
non, de toute façon, elle est assez âgée. Elle n'est pas vraiment folle, mais disons, il dit un moment, elle est un peu dispersée. C'est assez joli.
En morceaux.
Et elle a des recettes de petits déjeuners extravagantes, mais pas forcément toujours très appétissantes. Il y a aussi le nain, Gunther, qui est aussi locataire de Madame Plot. Il y a Shelley, le dentiste dépressif, parce qu'il s'est fait quitter par sa femme. Et il y a le frère flic de Toby, donc Phil Peters, qui est lui plutôt violent. Il y a aussi un personnage qui apparaît de temps en temps, qu'on aime bien, parce que c'est un chat d'abord, et il s'appelle Dash, comme un de
Dashiell
nos... Hammett. Comme Dashiell Hammett. Donc ça commence le 31 décembre 43. Cary Grant téléphone à Toby pour lui demander d'aller récupérer pour lui un paquet dans un des parcs de la ville de Los Angeles. Mais là, Toby ne va trouver qu'un homme quasiment mort qui lui dit dans son dernier souffle « George Hall ». Et puis, Toby va prendre sa première dérouillée du roman. Avec ça, Toby, Cary et la bande vont se débrouiller pour récupérer des documents à des nazis infiltrés. Car on est en 43, en fait, même en 44, vu que ça commence le 31 décembre. Et des nazis, eh ben, y en avait aux USA, et même à Hollywood, et même parmi,
oh, mais y en a toujours.
Et même parmi les acteurs. Voilà, c'est sûrement pas un roman qui va révolutionner le genre, ni en espionnage, ni en polar, ni en roman historique, ni même en roman humoristique. Mais par contre, on passe un vrai bon moment de lecture. C'est très court, ça va très vite. Kaminski a une écriture très très agréable. Il assure un vrai bon rythme à son roman. On le lit avec plaisir. Et puis en plus, c'est amusant parce qu'il y a plein de références cinématographiques qu'on cherche à découvrir, qu'on est tout à fait content quand on les trouve. D'autres, on se dit, tiens, ça, il y a quelque chose que j'ai raté. C'est vraiment très, très sympa. C'est paru aux éditions Rivage Noir pour 8,50 €, traduit par Monsieur Emmanuel Payet. Et donc, tu peux rappeler le titre, si tu veux.
Donc, c'est L'impossible Monsieur Grant, et l'auteur en est Stuart Kaminski. Comme on le disait, petit hommage, il y a très peu de temps qu'il nous a quittés.
Juste un peu avant Noël.
Donc, il y a pas mal d'autres romans.
Oui, il y en a un autre qui met en scène Charlie Chaplin. Et celui-là, il finit, et il fait une petite allusion au prochain, qui est John Crawford.
Qui est déjà... dont la plastique est plus agréable que celle de Charlie Chaplin. Mais enfin, ça dépend des goûts. Hein.
Pas forcément celle de Cary Grant, pour certains, en tous les cas.
Eh oui. Bon, et bien sur ce, on va vous souhaiter de bonnes lectures.
Une bonne soirée.
Et on vous retrouve
bientôt.
Dans quelques semaines, un mercredi soir. Au revoir.
Agora Mutant Learn 19